Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité, Mathieu Chaigne, bonjour, directeur associé chez BVA Nudge Unique. Et cofondateur du site Délit d'Opinion. Vous avez publié La Fabrique des Solitaires qui est paru aux éditions de l'Aube. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. L'affaire bonjour à tous. L'affaire Abad qui n'en finit pas. Cette fois-ci, ça prend un tournant politique. L'exécutif était-il au courant alors que la porte-parole du gouvernement a affirmé le contraire lors de son premier point presse, alors que la première ministre a assuré qu'elle n'était pas au courant. Bref, nous reviendrons sur ce sujet. On va parler de l'hôpital. La très belle une de Paris Match aujourd'hui. Naufrage à l'hôpital. La vérité sur le salaire des soignants et la première interview de Brigitte Bourguignon, absolument hallucinante, de nullité, voilà, je dis comme je le pense ce matin. Vous entendez quelques extraits chez nos confrères d'RTL. Et puis la tuerie aux USA, interdiction du port d'armes, on en parle. Quand le fera-t-on? On y reviendra dans un instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mathieu Chaigne, à vous l'honneur.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Effectivement, et je vais commencer par un coup de cœur pour Joe Wilfried Tsonga, pour ce grand tennisman qui hier a fait son dernier match à Roland-Garros. Alors, il a perdu contre Casper Ruud, qui est un Norvégien, mais je crois que c'était important aujourd'hui de tirer un grand coup de chapeau pour ce grand sportif qui a créé des émotions collectives. On sait qu'il a notamment été en finale de l'US Open en 2008, qu'il a permis à la France de gagner la Coupe Davis en 2017. Je crois que c'est un grand champion que nous avons eu pendant des années, un grand champion qui a fait partie des 5 meilleurs joueurs mondiaux, un grand champion qui avait des grandes qualités d'humilité, qui appartenait un petit peu au patrimoine sportif national. Et je crois, à un moment où on regarde des polémiques sur Mbappé, le PSG, qui finalement ont quitté un peu le domaine sportif, il est possible en France, il a été possible d'avoir à la fois des grands joueurs et des joueurs humains qui n'ont pas été totalement parasités par des logiques de marchandisation à outrance. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des grands joueurs très bien payés, mais en tout cas, il y avait une dimension d'humilité qui était très prégnante. Alors ouais. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y a un avenir pour le tennis français. On sait qu'il y a aujourd'hui une grande génération qui quitte les cours de tennis et une nouvelle génération qui se fait un petit peu attendre. À l'étranger, il y a une génération espagnole, notamment avec des phénomènes comme Alcaraz, exactement, qui sont en train de supplanter leurs aînés, notamment Rafael Nadal. On espère qu'en France, prochainement, dans ces prochains mois, des talents aussi vont éclore pour permettre à la France de pouvoir continuer à vivre d'immenses émotions en sport et en tennis en particulier.
On a le son de Joe Wilfried Tsonga, mais allez-y, on va le passer après. Oui, allez-y.
J'ai failli prendre le même sujet, Mathieu. Mais après, je me suis arrêté. Pourquoi? Pas à cause de Tsonga. Mais en fait, on va faire la même chose avec mon fils très rapidement, avec Gasquet très rapidement, avec Simon très rapidement. C'est-à-dire ces quatre génies qui ont été dans les 10 premiers de l'ATP tennis pendant plusieurs années, plusieurs semaines en tous les cas pour beaucoup d'entre eux. Effectivement, ils ont gagné la Coupe Davis ensemble. J'ai l'impression que c'était quand même une bande de potes, ce qui n'est pas si courant que ça au niveau sport professionnel.
Et vous avez mille fois raison. Hier, au moment où il y a eu ce coup de clapet pour Geoffrey Lefitte Tsonga, il y a ses amis qui sont venus, puis il y avait notamment effectivement Gaël, mon fils, et il y a eu des superbes témoignages la fois de ses copains, de Gilles Simon aussi, mais aussi des témoignages de concurrents, Djokovic, mais bien sûr aussi Rafael Nadal qui sont exprimés. Et il y a un côté, je crois, très famille dans le tennis. C'est un sport qui est un sport qui brasse aussi beaucoup d'argent, mais qui n'a pas oublié les valeurs sportives et les valeurs amicales. Et je crois qu'il faut le souligner aujourd'hui.
Écoutons peut-être, Gilles Gansman nous l'a passé dans le zapping, mais écoutons cet hommage hier sur le central.
Le très probable dernier service de Joe Wilfried Tsonga en pleurs sur cette première balle de match. L'émotion est immense. Voilà, c'était le dernier point de l'immense carrière de Joe Wilfried Tsonga. Alors félicitations à Casper Ruud qui rejoint le deuxième tour. Mais Joe, merci. Merci pour tout. Merci pour ce dernier tour de piste. Surtout, un match de légende, 3h49 minutes. Le 705e match de la carrière de Joe Wilfried Tsonga. Son 41e ici à Roland, on s'en souviendra longtemps.
Voilà, et c'est vrai que vous avez raison de souligner cet esprit différent de celui du football. On n'en a pas beaucoup parlé ici, et c'est vrai que moi j'avais un coup de gueule sur le Festival de Cannes, même s'il faut du faste, même s'il faut un peu de glamour, mais cette indécence quand même par les temps qui courent, où on voit tous ces sponsors qui organisent des dîners somptueux de plusieurs centaines de personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la somme astronomique que va toucher Kylian Mbappé. Tout champion soit-il, on entend, on voit ici régulièrement les gens se plaindre de ces entreprises du CAC 40, mais bon sang, l'argent dans le foot, c'est quand même un truc de fou. La somme que va toucher Mbappé est totalement indécente. Et on a eu assez peu de commentaires qui allaient dans ce sens-là. Je pense que si vous voulez réagir, Michel.
D'autant qu'il y a une législation qui me paraît complètement bafouée, parce que normalement, je crois savoir, mais sous réserve de vérification, que normalement les comptes des clubs sportifs doivent être équilibrés. Alors évidemment, le propriétaire d'un club peut toujours mettre autant d'argent qu'il veut à perte. Enfin, il y a quand même un problème de fair play financier qui est absolument majeur. Et enfin, surtout quand on sait d'où vient l'argent, c'est-à-dire d'un État qui n'est pas un État neutre, c'est le moins que l'on puisse dire sur beaucoup de sujets de société. Moi, je voudrais revenir sur Joe Wilfried Tsonga, juste pour dire, parce que j'ai écouté sa prise de parole hier. L'hommage était effectivement absolument superbe, et vous aviez toute la famille du tennis qui était autour de lui pour le saluer. Il a quand même dit, et je ne dis pas ça du tout pour déprécier ce qu'il a dit, parce que c'est une réalité qu'il a vécue, mais dans son témoignage, je pensais que c'était ce passage que vous alliez diffuser, Valérie. Il dit qu'il a quand même beaucoup souffert pendant sa carrière de la pression médiatique et d'avoir été à plusieurs étapes de sa carrière cloué au pilori. Et à un moment donné de son discours, il dit « Certains jours j'étais congolais, d'autres jours j'étais blanc ». D'autres jours, j'étais un héros. D'autres jours, j'étais un moins que rien. Et il a pas mal insisté sur cette souffrance qui, alors là, il y a mis les formes en disant que cela l'avait aidé à grandir et à grandir. Mais voilà, il a eu ce passage-là de ce moment de vérité ou de règlement de compte. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui était important aussi dans sa prise de parole hier.
Oui, Arnaud Benedetti, un avis sur le tennis, le foot.
C'est vrai que ce qui est frappant avec Tsonga, c'est son humilité. Ouais. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait vraisemblablement, même s'il a eu une très grande carrière. Il a eu aussi la malchance de tomber avec des champions d'exception comme Federer et Nadal, donc ce n'est pas évident hein, quand on est un grand champion soi-même, de tomber sur des super champions comme ceux avec lesquels il a dû... avec lesquels il s'est affronté, il était très modeste. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur le football, ce qui est en effet assez surprenant, c'est que finalement très souvent on met en cause les salaires des grands patrons du CAC 40. Mais c'est vrai que comparativement aux revenus qui sont ceux des footballeurs, si vous voulez, il y a un gap qui aujourd'hui me paraît incommensurable, et malgré tout, je vais dire quelque chose qui est peut-être pas politiquement correct, mais l'utilité sociale n'est pas la même.
Non.
Donc le problème, c'est que à un moment donné, il faut aussi, j'allais dire, en revenir au sens de la mesure et au sens des proportions, et essayer aussi peut-être de rétribuer aussi les personnes en fonction de leur utilité sociale, même si Mbappé est un formidable footballeur. Et
que c'est ça ne retire rien.
Un très bon esprit quand même, hein, d'une certaine façon. Mais je ne suis pas sûr que c'est les dieux du stade. Il y a une espèce d'idolâtrie qui quand même, me semble-t-il, un peu excessive.
Allez, on marque une pause. C'est l'heure du journal sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti, Michel Taube et Mathieu Chaigne. On a évoqué un certain nombre de sujets que nous allons aborder, en particulier encore et toujours ce qui se passe à l'hôpital. Je vous conseille la lecture de Paris Match avec ces soignants qui ont affiché leur fiche de paye, qui ont montré leur fiche de paye. On va en reparler dans un instant. Le naufrage, c'est le titre. C'est la une de match. Tuerie aux États-Unis, l'interdiction du port des armes revient, le sujet revient à chaque fois et c'est évidemment très compliqué à mettre en place. Et l'affaire Abad, l'exécutif était-il au courant? Donc je vous représente Mathieu Chaigne, directeur associé à la BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'Opinion. Vous avez publié La Fabrique des solitaires, aux éditions de l'Aube. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et vous avez publié « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. On a eu le coup de cœur pour Joe Wilfried Tsonga. Michel Taube, vous, c'est un coup de cœur et un coup de gueule d'une certaine manière.
Oui, absolument. Alors j'hésitais à parler justement de la peine de mort parce qu'Amnesty International a rendu son rapport annuel qui montre qu'il y a une forte augmentation des exécutions dans plusieurs régions du monde, en Asie, dans le monde arabo-musulman et dans certains États américains. Mais je voulais effectivement parler de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a pris pour une fois une décision fort courageuse et j'ai presque envie de dire assez audacieuse, tellement c'est rare, en retoquant la plupart des demandes de Jean-Baptiste Djebbari, qui est donc le ministre des Transports sortant du premier quinquennat Macron, et qui manifestement, peut-être contrairement à notre président, n'a peut-être pas passé jusqu'à la dernière seconde à essayer d'administrer son ministère des Transports, mais a plutôt préparé sa reconversion professionnelle, puisque il y a 15 jours, il a fait savoir, et la Haute Autorité de Transparence lui a donné son accord avec quelques réserves, qu'il entrait au conseil d'administration d'une start-up française. Alors là, je me suis dit, une start-up française, après avoir été ministre des Transports, eh bien non, ce n'était pas tout. Il a aussi demandé à pouvoir entrer au conseil d'administration du pôle spatial du groupe CMA-CGM, qui est un mastodonte du transport maritime et qui est en train d'entrer au conseil d'administration d'Air France. Mais manque de bol pour lui, la Haute Autorité a dit non. A carrément mis son veto.
Ouais, le terme exact, c'est incompatible avec les fonctions gouvernementales qu'il a exercées au cours des trois dernières années et de pointer que Djebbari avait rencontré, alors qu'il était ministre des Transports, à 8 reprises, il a rencontré les cadres et dirigeants de cette entreprise, de quoi créer un doute légitime quant aux conditions dans lesquelles le ministre a exercé ses fonctions gouvernementales au regard des principes déontologiques.
Et pire encore, ce qui, à mon avis, va lui poser beaucoup de problèmes, c'est qu'il a créé une société de conseil très, très récemment. Et la même autorité lui impose des contraintes draconiennes à l'exercice de son activité de conseil en lui interdisant quasiment de traiter avec toute l'administration publique et notamment dans le monde des transports. Donc voilà en fait un pantouflage raté et pour une fois effectivement une vigilance extrêmement forte d'une autre autorité publique qui risque, je ne sais pas si elle va faire jurisprudence, non, puisque chaque cas d'espèce est différent, mais encore une fois c'est vraiment très très audacieux. Et j'aimerais terminer en citant un autre cas, enfin je ne vais pas le nommer, mais il y a d'autres personnes sur lesquelles il faudrait peut-être qu'il y ait une plus grande vigilance encore que les ministres, c'est les directeurs de cabinet des ministres. Parce que ces personnes-là ont des pouvoirs considérables, ont une influence et des réseaux extrêmement importants dont ils se sont dotés pendant l'exercice de leur fonction de directeur de cabinet de ministres. Et on en connaît certains qui se sont trouvés du jour au lendemain de directeur de cabinet à patron d'entreprise avec des fonctions extrêmement importantes où, à mon avis, si on y regardait de plus près, on serait assez étonné des conflits d'intérêts que cela pourrait créer.
Ça ne va pas aider à l'ambiance générale. Un commentaire, Arnaud Benedetti, c'est comment sont morts les politiques, ça y contribue.
J'avais déjà été très surpris, finalement, de la façon dont l'ex-ministre avait mis en scène son atterrissage dans le privé. J'avais trouvé ça quand même pour le moins disons, désinvolte de sa part et imprudent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en l'occurrence, la décision de la haute autorité me paraît quand même frappée au coin du bon sens, parce qu'il y avait une évidente porosité entre les activités qui avaient été les siennes en tant que responsable d'un département ministériel et les activités qui devaient devenir les siennes. Donc, en fin de compte, je pense que la haute autorité a malgré tout là posé peut-être une sorte d'acte fondateur, dans la mesure où elle a tracé une ligne qui est une ligne rouge qu'il ne faut pas, en l'occurrence, transgresser, espérant que ça soit suivi des faits pour... Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Michel Thor, parce qu'il y a le personnel politique, mais il y a aussi le personnel des collaborateurs politiques. Et on sait très bien que, en l'occurrence, le personnel des collaborateurs politiques est un personnel qui, lui aussi, est très souvent, j'allais dire, l'objet de ce type de transfert. En effet, je crois qu'il faut moraliser tout cela, surtout aujourd'hui où la crise de confiance dans les pouvoirs publics est très grande.
Oui, un commentaire. Pardon. Oui. Excusez-moi.
Exactement. Mathieu Chaigne. Petit commentaire. Mathieu Chaigne. À la fois, je trouve effectivement audacieux la décision de la haute autorité, et en même temps, si je peux me permettre, un petit bémol. Aujourd'hui, on cherche à avoir des hommes politiques, des femmes politiques, qui ne soient pas des professionnels. Le président sortant, qui est le nouveau président, Emmanuel Macron, se flattait d'avoir des amateurs, c'est-à-dire des gens qui ne soient pas des professionnels de la politique. Nos concitoyens veulent des politiques qui exercent des mandats, mais qui ne fassent pas carrière. Et donc, je crois qu'il faut veiller à assurer aussi la possibilité pour les gens qui font de la politique pendant une parenthèse de pouvoir revenir dans le privé. Ce qui ne se dit pas, mais la vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans le privé et qui ne refusent des postes de secrétaire d'État et de ministre. Ce qui ne se dit pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à trouver des gens pour travailler dans les cabinets ministériels, parce que les conditions de retour dans la vie privée ensuite, dans la sphère professionnelle privée, est de plus en plus compliquée. Alors, on peut trouver ça normal, et dans le cas précis, avec M. Djebari, effectivement, il y avait un risque de confusion, parce que, encore une fois, CMA, CGM sont des acteurs qui étaient en contact étroit avec lui. Mais je crois, veillons aussi à assurer que la vie politique soit bien considérée comme un sas, et pour ça, eh bien, que la possibilité soit offerte aux gens qui sont passés par le privé de pouvoir y retourner. Ensuite, c'était le cas d'ailleurs de M. Djebari, qui n'était pas un professionnel de la politique.
Oui, mais là, vous conviendrez que dans son cas, c'était quand même assez. Vous savez, les gens qui vont au CSA, je pense aux journalistes, à mes consoeurs ou confrères journalistes, ils ont interdiction pendant 5 ans de travailler dans un média. Ça me paraît être normal compte tenu des relations que vous entretenez. 5 ans, bon, pourquoi pas, mais d'être dans le même domaine, il serait rentré dans une entreprise, je ne sais quoi, une banque, pourquoi pas, mais là, être dans ce domaine où vous avez eu à traiter avec des patrons, ça jette une certaine suspicion sur la déontologie, effectivement. Jean-Luc, un mot ?
Benhamias ? J'ai pas pleuré de tout cela. Je pense qu'il y a beaucoup plus à plaindre que le monde politique dans sa reconversion. Je parle du monde politique député, sénateur, ministre. Je ne parle pas monde politique des mairies rurales, du monde rural qui sont très nombreuses dans le pays. Je parle de ce monde politique-là. Globalement, dans ce que j'en connais moi, j'ai quand même largement participé, on retombe assez vite sur ses pattes quand même. C'est quand même pas très catastrophique. Et donc, pour M. Djebari, voilà, il y a une bonne décision qui a été prise, même si je ne la trouve pas complète, parce qu'il avait inauguré juste avant la boîte dans laquelle il va aller travailler.
Oui, absolument.
Bien sûr.
Non, mais ça pose mais
bon, tant mieux pour
ça
lui,
pose
hein.
Question. Bah, tant pis pour lui, puisque là, pour le coup, c'était un peu gros.
Non, Arnaud Benedetti. Il a pas tout perdu.
Il est rentré au conseil d'administration. Arnaud Benedetti, un coup de cœur, coup de gueule.
Oui, c'est un coup de cœur, coup de gueule. J'ai découvert ce matin une interview dans le Figaro étudiant. Alors, c'est peut-être parce que je rentre dans la période de la correction des copies que c'est j'ai été, disons, particulièrement sensible à cette interview. C'est une professeure de droit à l'Université du Mans, Deniso, qui sort un livre que je n'ai pas lu, qui s'intitule « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ?» et qui revient sur un sujet que tous les enseignants auxquels tous les enseignants sont confrontés, c'est la baisse du niveau en orthographe et la baisse du niveau grammatical, qui est une véritable catastrophe. Hein. Il faut avoir à corriger des copies pour se rendre compte que la maîtrise aujourd'hui de l'écriture n'est plus quelque chose qui va de soi, et notamment on le s'en rend compte surtout lorsqu'on est à l'université, parce que c'est des gens qui en principe ont passé les différents filtres et qui devraient arriver à l'université en maîtrisant l'orthographe. Et elle revient sur ce problème. Et en fait, elle identifie les déterminants, les causes de cette baisse du niveau en orthographe et du niveau en grammaire. Un des premiers éléments sur lequel elle insiste, c'est que aujourd'hui dans le primaire, les exercices sont de plus en plus photocopiés. On a tous ici autour de cette table eu à recopier les exercices. Ouais. Vous vous souvenez, hein, c'était un peu fastidieux, mais on le faisait. Et ce qu'elle note, c'est qu'en effet, le fait déjà de recopier, c'est une forme d'apprentissage. C'est une forme d'apprentissage. Et aujourd'hui, on a abandonné cette technique, cet usage pour tout simplement gagner du temps. Et ça explique vraisemblablement là aussi une des raisons qui préside à la baisse du niveau. Deuxième élément, c'est que on a baissé le niveau des heures dans le primaire et dans le secondaire. Consacré à l'orthographe et à la grammaire, hein, donc inévitablement, mécaniquement, puisque on consacre moins de temps à l'apprentissage de ces fondamentaux, forcément le niveau s'affaiblit. Et troisième élément sur lequel elle insiste, c'est que on se souvient tous que dans d'autres matières que l'orthographe ou la grammaire, on pouvait être sanctionné sur l'orthographe. C'est un mode d'évaluation qui n'existe plus. Mmh. Et je me souviens même à l'université, on pouvait être sanctionné lorsqu'on était défaillant en matière orthographique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc toutes ces raisons expliquent la baisse de ce niveau, mais c'est quand même très inquiétant parce que si vous voulez, quand on regarde pratiquement 100 ans d'éducation nationale, c'est la première fois vraisemblablement dans notre histoire de la transmission des savoirs fondamentaux que l'on observe une baisse aussi significative sur un certain nombre de savoirs. Alors là, je parle en effet de l'orthographe et de la grammaire, mais ça se retrouve dans d'autres matières, notamment dans un certain nombre de matières scientifiques. On sait très bien que le niveau en mathématiques s'est considérablement là aussi affaibli, voire effondré. C'est quand même, ça nous interroge sur ce qu'on est en train finalement de léguer. Et sur le décrochage qui est le nôtre, on le voit dans les classements PISA, par rapport à d'autres pays, je pense bien sûr d'abord aux pays asiatiques, mais pas seulement. Donc c'est un vrai sujet, et je pense que le ministre de l'Éducation nationale, et l'ensemble des ministres d'ailleurs de l'Éducation nationale, quels qu'ils soient, devraient d'abord évidemment se pencher sur ce problème, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le cœur de métier, qui est celui de l'Éducation nationale, finalement n'a plus été traité depuis un certain nombre d'années, et on se retrouve dans cette situation. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons étudiants, il y a de très bons étudiants. Il y a de très bons étudiants.
Mais
parmi
vous constatez,
le niveau moyen s'est effondré, clairement.
Ouais. Oui, c'est ce que vous constatez aussi, vous, avec des copies d'universitaires. Mais il y a aussi la question des profs que soulèvent nos auditeurs. Ils disent, vous parlez des élèves, mais il y a aussi le niveau des enseignants. Quand on voit le nombre de postes disponibles et le nombre d'admissibles, forcément, il y a moins de candidats. Donc, on va être amené aussi à baisser ce niveau-là des enseignants. On pourra en dire un mot tout de suite après. On marque une pause de pub. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
On est ensemble pour commenter l'actualité avec Mathieu Cheng, Michel Thau, Barno Benedetti et Jean-Luc Benamias. Un point peut-être sur ce que disait à l'instant Arnaud Benedetti à propos du niveau des élèves qui a considérablement baissé. Laurence nous dit « Maman de deux enfants, je peux voir comment les soustractions et autres calculs sont compliqués avec les nouvelles méthodes. Les anciennes méthodes étaient certainement plus simples. Et c'est vrai que...
C'est vrai
aussi. Michel Taube.
Non, non, je voudrais saluer le choix qu'a fait Arnaud Benedetti. Pour avoir une fille qui a 11-12 ans dans quelques jours, j'ai l'impression d'entendre Arnaud parler de ce que vit ma fille tous les jours. Pour être un tout petit peu plus précis, on ne donne plus de notes. Les élèves ne reçoivent plus de notes. C'est-à-dire que quand ils font des exercices, ils ont des appréciations globales, mais ils n'ont plus de notes. Non seulement on ne note pas l'orthographe et la grammaire, mais on ne note rien. Il n'y a plus de notes à l'école, ce qui est absolument gravissime parce que c'est supprimer une opportunité de repère pour nos enfants qui est absolument incroyable. J'ajouterais deux autres raisons.
Il y a des effondrements, je crois.
Mais c'est sur des appréciations globales. C'est-à-dire on ne note pas les fautes précises qui sont commises. Donc, sur les cas d'espèce où il y a une faute de mathématiques ou de français, il n'y a pas de note qui est donnée. Et donc, l'enfant ne mesure pas que là, il y a quelque chose qui est à refaire. Moi, je voudrais ajouter deux autres arguments. C'est que la concentration des enfants s'est effondrée littéralement.
C'est-à-dire qu'il y a
une baisse, un effondrement du temps d'attention de nos enfants à tout apprentissage. Donc, sur ce temps extrêmement réduit, évidemment, la part consacrée aux fondamentaux, elle est forcément très réduite. Et puis, il y a une dernière raison,
les écrans.
Toute simple, c'est que les enfants ne lisent quasiment plus. Les enseignants ne proposent plus aux enfants, à part certains qui sont dédiés à cette activité dans les écoles, mais de la part de l'institutrice, de l'instituteur, le temps consacré à dire « il faut lire des livres », ce temps-là, cet appel, cet encouragement, il a pas disparu, mais il est beaucoup moins important que dans le passé. Et sans lecture, on ne peut pas
apprendre à lire. Ce qu'évoque Arnaud Benedetti, et votre expérience le dit, ce sont des élèves qui aujourd'hui arrivent en master, ont quand même eu un cheminement éducatif assez important et qui malgré tout sont aujourd'hui complètement carencés, ne savent pas écrire. Et ce que nous disait Alain Bentolila, que j'avais reçu ici il y a quelques semaines, c'est qu'ils ne comprennent pas. Il y a aussi un problème de compréhension au-delà de l'orthographe. Vous évoquez le livre.
Je vais vous prendre un autre exemple.
Après Mathieu Chaigne.
Exemple que j'ai vécu, je ne dirais pas où et quand, mais pour des premières années. Je leur ai posé une question qui est assez simple sur le plan historique. Je leur ai posé la question de savoir quel était le chef d'État français à la fin du XVIIIe siècle, à la toute fin du XVIIIe siècle, et au début du 19e siècle. Je pense qu'on est à peu près tous autour de cette table capables de répondre à cette question. Il n'y en a aucun qui a été capable de me dire quel était le chef de l'État à ce moment-là. Et en fait, j'ai compris pourquoi après. Non pas qu'ils ne connaissaient pas le chef de l'État. Quand je leur ai dit Napoléon, ils ont tout de suite réagi, évidemment. Mais c'est qu'ils ne sont même plus capables, pour un certain nombre d'entre eux, de se repérer par rapport à une frise chronologique,
c'est-à-dire
les notions de 16e, 17e, 18e, 19e siècle, ça ne veut rien dire pour eux. Ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire quelque part qu'on a bien évidemment raté un certain nombre de choses dans la transmission.
Bien sûr. L'arrivée du pédagogisme. Mathieu Chaigne et après Jean-Luc sur ce sujet vraiment intéressant.
Je crois qu'il y a un facteur qu'on a sous-estimé qui a été évoqué notamment par Michel. C'est l'incapacité aujourd'hui à se concentrer. Les réseaux sociaux et le digital créent aujourd'hui une concurrence qui est impossible pour la lecture. Vous avez aujourd'hui en moyenne 2 heures qui sont consacrées pour les réseaux sociaux par jour, par adolescent. C'est l'équivalent de la moitié d'un livre. Or, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? On va vous ingurgiter en flux continu des petites vidéos sur TikTok, sur Insta, qui dure 30 secondes, qui ne dure une minute, ou dans lequel doit y avoir du fun, dans lequel ça doit aller vite, et dans lequel on n'a pas besoin de se concentrer trop longtemps sur des choses. Ça crée une rupture terrible par rapport à la lecture, la concentration, au temps long. Et ça, je crois que ce sont des dommages qui sont irréparables, parce que ça rend impossible de se concentrer pour un exercice, de se concentrer pour lire, mais même de réfléchir tout simplement. Et donc, les dégâts causés par le digital et les réseaux sociaux, je crois qu'on en aperçoit uniquement aujourd'hui un tout petit fragment. On est en train de créer des individus qui ne sont plus capables de penser.
Une génération sacrifiée.
Exactement.
C'est ce que moi j'appelle une génération sacrifiée.
Certains vous diront, on avait dit la même chose des des jeux vidéo. Sauf que il y a quand même, quand les jeux vidéo sont apparus, il n'y avait pas tout cet environnement numérique. Et puis mais je le vois même pour nous. Je veux dire, c'est plus facile de prendre un ordi que de prendre un bouquin. C'est évident.
Mais c'est très connu que tout nouveau média. Vous savez, il y avait un spécialiste des sciences de l'information et de la communication, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Marshall McLuhan, qui avait écrit un bouquin dans les années 60 qui s'appelait « La galaxie Gutenberg ». Et il expliquait très justement que tout nouveau média transforme les capacités cognitives. Et là, en la matière, c'est clair. On voit bien que les capacités de concentration se sont totalement effondrées. Le problème, c'est que quand vous êtes obligé de lire, ben, vous êtes obligé de vous concentrer. C'est un effort sur la durée d'une heure, de deux heures. Et on voit bien que les jeunes, pour la plupart, enfin un grand nombre d'entre eux, ne sont plus capables de s'astreindre à cet effort. La lecture, c'est pour eux quelque chose qui est, en tout cas, un exercice qui leur apparaît absolument insurmontable.
Et en complément, il y a un autre point qui joue, qui a un impact également sur l'orthographe, c'est que la culture Insta, la culture TikTok, c'est quoi ? C'est une culture phonétique. Et donc, ça veut dire que les jeunes, ils vont écrire avec une culture phonétique, ils ne vont plus être confrontés à des textes. Et donc, ils vont être confrontés au message de leurs potes, dans lequel on est sur du raccourci, on est sur de l'émoji, on est sur du phonétique. Et c'est un naufrage ensuite quand il faut retrouver l'écriture.
C'est quasiment, on est en train de quasiment rentrer à nouveau dans une ère qui est préalphabétique. C'est, ça, c'est ce à quoi nous assistons.
Complètement, mais c'est si on rejoint aussi l'actualité, ce sont ces deux candidats qu'on a vus complètement interloqués, incapables de répondre à une question. Alors peut-être qu'ils manquaient de fond, mais visiblement, ils n'avaient pas compris la question. Jean-Luc, on ne vous a pas entendu sur ce sujet qui fait beaucoup réagir nos auditeurs également. Hein, c'est vrai que c'est une vraie question dont on parle assez peu. Merci Arnaud Benedetti. Jean-Luc Benamias.
Je serais moins catastrophiste que ça. Parce que il me semble que ça était aussi florissante. Alors, plus de 60 ans ou les plus de 50 ans qui achètent des livres, soit, me semble-t-il, il existe aussi encore dans la jeunesse française un certain nombre de jeunes qui lisent des livres. Alors, est-ce qu'ils les lisent de la même manière ? J'en sais rien. Ce que je vois, moi, c'est que c'est moins catastrophiste. Et Valérie, excuse-moi, je sais bien qu'on a un débat régulièrement là-dessus. Ouais. Le pédagogisme a aussi des effets totalement bénéfiques. De prendre des élèves comme ils sont. Et à ce niveau-là, l'histoire fait que...
Ça a été quoi les effets bénéfiques du pédagogisme ?
C'est de prendre au sérieux les élèves tels qu'ils sont et d'évoluer avec eux
période par période.
En tout cas, c'est mon avis à moi. Je suis un adepte au niveau de l'éducation d'un garçon qui s'appelle Philippe Mérieux, qui travaille beaucoup là-dessus. Il le dirait beaucoup mieux que moi.
Je peux vous dire que non.
C'est ça le débat.
Je peux vous dire que pour le pratiquer tous les jours, c'est une chose d'en débattre, c'est une chose de le vivre au quotidien. Et je peux vous dire que lorsque vous voyez que... Jean-Luc, attention.
Mais les conséquences.
Jean-Luc, je ne sais pas combien...
d'années...
Oui, mais tu sais que les méthodes ont changé 12 fois depuis que tu as été enseignant.
Ah non, ça va, c'est bon.
Au moins 12 fois. Et ce qui est absolument terrible, c'est qu'effectivement... Pour comparer avec certains enseignants, c'est que même au moment où on se parle, il y a des enseignants qui utilisent des méthodes qui sont parfois différentes et qui reconnaissent qu'ils ont du mal à expliquer avec leur nouvelle méthodologie la fraction, certaines règles de grammaire. Enfin, non, la réalité, c'est que c'est dramatique.
Si je veux aller sur un point qui est une angoisse pour toute une série de Français, c'est qu'il y a aujourd'hui une école à deux vitesses.
Absolument, c'est ça qu'il faut dire.
Ceux qui ont aujourd'hui la capacité de se payer des cours privés, les académias qui ont les capacités de se payer des cours du soir pour leurs enfants, et tous les autres qui n'en ont pas les moyens et qui constatent avec effarement que leurs enfants ne savent plus lire, plus écrire et qui sont démunis.
Juste un dernier point pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc, et je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est qu'en fin de compte, si vous voulez, le pédagogisme, produit des effets qui sont des effets d'inégalité, c'est-à-dire qu'il renforce ces inégalités sociales. Il reproduit et il renforce ces inégalités sociales. qu'est-ce que c'est que l'éducation ? L'éducation, c'est d'acculturer les élèves à un certain nombre de savoirs qui sont des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire finalement d'avoir un niveau d'exigence qui lui permette de progresser. Le pédagogisme, c'est in fine de s'acculturer finalement à ce qu'est l'élève. Non, c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est l'élève, il est là pour apprendre. Donc à partir du moment où on considère qu'il faut avoir, vous allez dire, presque un traitement sur mesure pour chaque élève, ben, in fine, on en arrive à ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire, encore une fois, je pense à un affaiblissement d'un certain nombre de savoirs et de savoirs fondamentaux.
On marque une pause, on est très en retard, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats, je voulais qu'on revienne sur cette une de match, de Paris Match aujourd'hui, une qui est assez choc. Cette une dit « Naufrage à l'hôpital » et ce sont des soignants qui montrent leur fiche de paye à l'intérieur du magazine. Quelques exemples, on a un médecin, on a une infirmière de nuit, 59 ans, 28 ans d'infirmière de nuit, elle gagne 2600 euros. On a Grégoire, un médecin qui travaille 50 heures par semaine, il gagne 2000 euros. Ses salaires à l'hôpital qui aujourd'hui expliquent en partie, pas uniquement, mais en partie ce malaise. Et écoutez ce matin, Brigitte Bourguignon, qui était chez nos confrères d'RTL, écoutez ce qu'elle répondait à cette enquête de match réalisée par Anne Jouan. Écoutez.
Ou encore Sylvie, 59 ans, infirmière de nuit depuis 28 ans, elle gagne 2600 euros net. Combien, pour vous, madame la ministre, serait un salaire correct pour Sylvie qui gagne 2600 euros net pour 28 ans de bon loyer au service? Ce serait combien?
Je ne rentrerai pas dans ce genre de polémique, d'abord, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, les gens qui utilisent un malaise profond qui touche les Français alors que nous sortons d'une pandémie, je ne les suis pas. J'ai envie de vous dire, nous nous sommes attaqués à ce problème alors que nous avions une pandémie mondiale. Nous avons d'abord revalorisé tous ces soignants. Je veux bien qu'on laisse tout derrière. Nous venons d'investir cette année 19 milliards d'investissements, à la fois dans la revalorisation salariale et à la fois...
Alors, on parle de polémique, on parle d'instrumentalisation. Enfin, j'ai trouvé cette réponse absolument sidérante. Je vois Arnaud Benedetti, que ça vous a fait réagir, vous aussi. Ce n'est pas une polémique, c'est une réalité.
Enfin, c'est pas une polémique, il y avait rien. Enfin, j'ai pas trouvé que la question était polémique. C'était une question qui est légitime. Et en termes de communication, je trouve que la réponse de la ministre est pour le moins courte. C'est d'autant plus inquiétant que c'est l'aile gauche de la majorité, madame Bourguignon.
Madame Bourguignon, oui.
Donc, d'une certaine façon, ça montre que la préoccupation, qui est une préoccupation tout à fait, qui me paraît absolument nécessaire de savoir comment on rétribue le personnel hospitalier, n'apparaît pas finalement à l'effleurer. La réalité, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans ? Pendant deux ans, on s'est aperçu que finalement, les politiques qui avaient été conduites depuis de nombreuses années ont été maintenues en termes de baisse des moyens dans les hôpitaux. On le voit bien, il suffit de voir la tension qu'il y a sur un certain nombre d'urgences aujourd'hui en France pour se rendre compte que finalement, aucune mesure de redressement du système hospitalier, de réarmement du système hospitalier a été réellement prise malgré la pandémie et malgré ce qu'a sursouligné la pandémie dans nos carences.
Écoutez, deuxième extrait de cette interview sur la situation à l'hôpital. Écoutez.
Moi, je vais éviter les mots naufrage, catastrophe, etc., qui sont très anxiogènes. Par contre, je ne nie pas la crise, hein, bien sûr, et nous avons pris pleine conscience de cette crise dès maintenant. Le président de la République fait de la santé, vous l'avez entendu, le chantier prioritaire. Nous souffrons surtout d'une pénurie global de personnel, pas seulement de médecins, c'est aussi d'autres soignants. Nous sortons d'une crise qui a affecté ces soignants, qui ont été applaudis pendant des mois et qui sont maintenant très fatigués. Moi, ma méthode va être celle de la concertation, parce que les situations ne sont pas toutes les mêmes partout en France. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner les solutions qu'on va trouver, parce que je vais les construire avec les gens qui sont sur les terrains en ce moment. Je vais les rencontrer, j'ai 15 jours devant moi pour le faire. J'ai déjà toutes ces rencontres prévues dans mon agenda, vous l'imaginez bien. Je vais aller sur le terrain aussi à leur rencontre. Je veux les écouter. Je veux les écouter parce que, vous savez, des chiffres à l'emporte-pièce, ça ne veut rien dire.
C'est absolument sidérant. Enfin, franchement, ça fait peur, hein, espèce de robinet d'eau tiède, de concertation, de rencontres, de parler de polémiques, de parler de mots anxiogènes. Quand on sait ce que vivent, ça me met en colère. Quand on sait ce que vivent les soignants.
Dans les 15 jours qui viennent, elle ne va pas avoir beaucoup de temps parce qu'elle est candidate aux législatives.
En plus, non, mais anxiogène. Parler de mots anxiogènes. Enfin, on est où là, Mathieu Chaigne?
La difficulté qui est. Qu'elle a cette ministre, c'est qu'au fait, elle ne décide de rien, que tout va remonter à l'Élysée et que visiblement l'Élysée n'a pas encore tranché. Donc c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui dans un boulga, parce qu'elle n'est pas en capacité de trancher. En revanche, les constats, tout le monde les connaît. Vous avez un hôpital qui est en ruine, pourquoi? D'abord parce qu'il y a la question salariale. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Le Ségur de la santé a été un petit pansement avec des augmentations de salaire minimum, en tout entre 150 et 250 euros par mois, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est totalement insuffisant par rapport à la réalité de ce que vivent les personnels soignants. Deuxième élément, c'est une crise aussi, j'ai envie de dire, de fatigue, d'épuisement du personnel médical, et donc on n'arrive pas à recruter. Et par ailleurs, il y a une multiplication des cas de burn-out qui font que pour les gens qui restent à l'hôpital aujourd'hui, ils sont littéralement saturés. Et puis, il y a un troisième élément, je crois, sur lequel il faut aussi insister, c'est que globalement, au-delà de la crise de l'hôpital, au-delà de la crise des urgences, il y a quoi ? Ben, il y a une crise de tout le système de santé, et notamment de la médecine de ville. Quand vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous aujourd'hui auprès de votre médecin généraliste, lorsque votre enfant est malade, qu'il n'a probablement pas quelque chose de grave et que vous ne pouvez pas appeler de médecin ou de SOS médecin, ben ça veut dire que tout ça va se déporter vers la médecine d'hôpital, la médecine d'urgence. Et donc, nous aboutissons aujourd'hui à un embouteillage des urgences. Quelque chose qui est assez stupéfiant, c'est que le taux de médecine de garde a structurellement baissé depuis 2002. En 2002, il n'y a plus d'obligation de garde pour les médecins. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins en ville, qui vont faire des gardes le soir ou le week-end. Tout se déporte. Ce n'est pas pour dire que les médecins n'ont pas leurs propres enjeux et que c'est extrêmement dur, mais aujourd'hui, tout se déporte sur l'hôpital et l'hôpital craque.
Oui, alors un médecin me dit, ce qu'on voit là n'est pas la conséquence d'échecs de politique de santé, au contraire, tout ça est calibré depuis plus de 20 ans pour tuer le public, favoriser le privé avec les fonds de pension et tout ça. Encore une fois, Madame Bourguignon n'est pas responsable de la situation. Je trouve que ses réponses, même si elle est dans une situation extrêmement compliquée, sont pour le moins légères, voilà. Michel Taube.
Elle fait de l'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, moi, ce que je regrette, et c'est terrible, c'est qu'Emmanuel Macron, d'abord le Ségur de la santé dont parlait Mathieu Chaigne, c'était de la rigolade, quoi, parce que les augmentations de salaire que Mathieu indiquait ne concernaient que les infirmières et une ou deux autres professions, mais la plupart des corps du monde des soignants n'ont pas bénéficié. Et surtout, le gouvernement a fait croire à tous les professionnels de santé que le Ségur de la santé, qui date de juillet 2020, allait révolutionner, régler tous les problèmes, ce qui n'a évidemment pas du tout été le cas. Et surtout, moi, je trouve, mais que fait le gouvernement ? Le gouvernement Castex, depuis un an, parce que ça fait au moins un an, voire un an et demi, que les pouvoirs publics savent qu'il y a une vague de démissions et de départs des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des soignants, des sages-femmes, des aides-soignants, des secrétaires médicales, des spécialistes, des généralistes. Ils le savent. On connaît tous des soignants qui nous disent « Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. Le Covid, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je quitte le métier. » Donc ça, le gouvernement le sait depuis un an et demi. Emmanuel Macron le sait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait depuis un an et demi ? Pendant la campagne, il a parlé de la santé.
Vous l'avez dit, 19 milliards. Il
n'avait pas de problème. Et donc, Madame Bourguignon, qui par ailleurs a des qualités, elle a été elle-même secrétaire médicale. Moi, je trouve très bien que ce ne soit pas toujours des médecins qui soient ministres de la Santé. Il y a des choses positives. Mais ce qu'elle dit, ce n'est que rapporter la parole relativisante et complètement inconsciente d'Emmanuel Macron, qui pendant pendant toute la campagne à parler de la santé comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de graves problèmes.
Donc on en a surtout très peu. Voilà. Alors, juste un extrait de l'article de Paris Match. Pour un lymphome cérébral, on parle donc de quelqu'un on parle de l'hôpital Saint-Louis. Faute de manipulateurs et de radiologues, il faut 10 semaines pour une IRM. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Un lymphome cérébral, donc gravissime, 10 semaines pour une IRM. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc on ne sait pas, quand elle dit « je ne veux pas employer de mots anxiogènes », mais que vivent aujourd'hui les médecins, Jean-Luc Benamias?
Ce qui est quand même étonnant, c'est que elle était ministre déjà avant, attachée au ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'elle ne débarque pas du jour au lendemain dans ce milieu. Elle était professionnelle. Voilà. Alors là, les phrases qu'elle emploie montrent qu'elle n'a strictement rien préparé avant d'être interviewée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est très amateur. Je n'aime pas dire ça parce que je n'aime pas taper sur les ministres femmes et les secrétaires d'État ou ministres, tout ça parce que
femmes ou hommes, c'est pareil, l'incompétence elle est partout. Je dis pas qu'elle est incompétente. C'est un aspect féministe. Dans les hommes et les femmes sont aussi nuls.
Dans l'entretien, elle est incompétente parce qu'elle ne répond à rien. Et surtout, l'un des problèmes principaux, me semble-t-il, on en a déjà parlé sur cette antenne, sur Sud Radio, c'est la façon dont les ARS, agences régionales de santé, n'ont jamais pris en compte le fond, le vrai fond le vrai fond anxiogène pour les infirmières, les aides-soignants et un certain nombre de médecins. C'est un vrai fond, parce que le reste, s'il s'agit uniquement de faire des calculs financiers à ce niveau-là, évidemment l'ARS a répondu.
Mais sur résultat.
Alors attendez, Arnaud avait pris la parole d'abord. Oui,
juste
Arnaud.
Un point, oui. Rappelez qu'aussi, elle a été non seulement ministre, mais elle a été aussi présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un qui, en principe, est censé quand même maîtriser, au regard de son domaine de compétences et d'intervention, ce type de sujet. Mais finalement, ce que l'on vit, c'est les ARS. Mais les ARS sont elles-mêmes le produit, finalement, d'un management d'État qu'on a progressivement imposé depuis une quinzaine d'années, voire plus, pas seulement d'ailleurs au système de santé, mais c'est encore plus grave, je pense, au niveau de l'hôpital public. C'est ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire le fait que l'on doit, d'une certaine façon, aujourd'hui gérer un certain nombre d'opérateurs d'État comme des entreprises. Or, un hôpital, qu'on le veuille ou non, n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise comme une autre, en tout cas, compte tenu de la nature de ses missions. Donc, on paye, si vous voulez, cette idéologie dont Emmanuel Macron est, me semble-t-il, un excellent représentant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, finalement, essayer toujours plus d'assimiler le modèle étatique au modèle entrepreneurial. Alors qu'il faille trouver certainement des gains de productivité dans les services de l'État, moi je suis convaincu, mais on ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez, d'une certaine manière, assimiler le fonctionnement de l'État à celui du modèle entrepreneurial.
Oui, résultat des courses, Elisabeth Borne a nommé comme directeur de cabinet, pour son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, qui est le patron sortant de l'ARS Île-de-France.
C'est le président de la République qui l'a nommé avant même qu'elle ne soit nommée. Voilà, il faut qu'on marque une pause de pub, Michel, on va y revenir.
Pour la gouvernance.
À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Alors, on va parler de Damien Abad, juste au monsieur qui m'insulte en me traitant de tous les noms parce que je ne parle pas de ces soignants qui ont été suspendus car non vaccinés. Il faut juste préciser, au vu des pointages qui ont été faits, que ce ne sont pas des soignants, ce sont des agents hospitaliers, ce sont des agents administratifs, mais que dans l'immense majorité, les soignants ont été vaccinés, il y en a certainement, mais que ce n'est pas ça qui changerait de toute façon quoi que ce soit au malaise de l'hôpital. Donc, quand on parle de soignants, c'est au sens très large. Et encore une fois, j'ai lu un certain nombre de rapports qui ont été faits sur le sujet. Donc, merci aux complotistes de tous bords de nous asséner ces contre-vérités sur ces 15 000 soignants qui ne sont pas des soignants.
Et ce n'est pas bien d'insulter Valérie. C'est pas bien non. du tout, même.
Non, non, mais les gens derrière leur petit ordinateur, voilà. Alors, parlons de Damien Abad. Alors, peut-être sous l'angle très politique du mensonge. L'exécutif était-il au courant? La version d'Elisabeth Borne est mise à mal dans cette affaire, puisqu'elle avait dit qu'elle avait déclaré qu'elle n'avait appris ses allégations que samedi dans un article de Mediapart. Or, la journaliste de Mediapart, justement à l'origine de ces révélations, affirme avoir contacté Matignon dès vendredi avant la sortie de l'article. Et donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils découvrent les choses avec l'article de Damien Abad. Mensonge. Et de toute façon, il y avait eu cet article dans Closer, je le rappelle, en 2017, qui racontait déjà cette affaire. Donc, y a-t-il eu mensonge de la part du gouvernement?
Les classements sans suite des plaintes initiales contre Damien Abad étaient connus de très nombreux politiques, que ce soit au Parlement ou chez les Républicains, et j'imagine aussi dans la Macronie. Donc de toute façon, qu'il y ait eu ces classements sans suite pour des affaires de plaintes pour viol, oui, ils étaient au courant, mais c'était des classements sans suite. Donc à partir de là, qui dit classement sans suite dit affaire terminée, on va pas juger quelqu'un ou s'interdire de bosser avec lui parce que il y a une décision de classement sans suite.
Mais non, les classements sans suite, c'est un petit peu différent. C'est pas du tout ce qui a été dit. Hein. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'était même pas au courant de ses affaires, de ses plaintes. Donc c'est un petit peu différent. Alors oui, Mathieu.
Deux éléments qui sont importants. Bon, c'est que. Un, il est possible que Matignon ait été averti, un conseiller qui soit averti ou qui reçoive le mail, et que ce n'ait pas été jusqu'à Elisabeth Borne. Ça arrive dans l'histoire que les courroies de transmission ne fonctionnent pas bien. C'est pas pour autant qu'il faut exonérer le gouvernement sur un point, c'est que maintenant le gouvernement il sait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à quel moment ils l'ont appris? Est-ce qu'ils l'ont appris trop tard pour une nomination, pour reculer, faire un rétropédaler, peut-être, mais aujourd'hui, ils savent. Et donc, la question, c'est que doit faire non seulement Elisabeth Borne, mais aussi le président? Moi, je trouve qu'il y a un silence, pour de vrai, assourdissant de ce président. Est-ce qu'on est plutôt du côté de la présomption d'innocence ou alors de l'éthique gouvernementale, c'est-à-dire de considérer qu'il est le représentant maintenant Damien Abad du gouvernement et qu'il, en toute connaissance de cause, ne veut pas jeter l'opprobre sur ses collègues, sur une fonction, ce qui pourrait l'amener à démissionner, ou alors un autre point de vue qui est celui de la présomption d'innocence. Comme vient de le rappeler Michel, le fait qu'il y ait eu un classement sans suite vaut pour l'instant qu'il n'y ait pas de nouvelles poursuites. En tout cas, il faut qu'il y ait de la part du gouvernement, et je crois de la part d'Emmanuel Macron, une prise de position qui soit ferme. Depuis quelques mois et quelques années, on a l'impression qu'il ne prend pas pleinement la mesure de ce sujet. On l'avait vu également avec l'affaire Hulot, dans laquelle il y avait eu des difficultés à prendre position fermement. Le président est attendu aujourd'hui parce que derrière, il y a des femmes qui attendent de savoir quelle est la position d'un gouvernement sur cette affaire, qui n'est pas encore une affaire judiciaire, il faut le dire. Et en même temps, ça évitera, de perdre du temps. Sur d'autres sujets, moi je suis effaré de voir que sur la question la solidarité du handicap, qui est en toile de fond de cette affaire, qu'on le veuille ou non, ce ne soit traité qu'à travers le prisme d'une affaire de caractère sexuel, alors que la question de la solidarité du handicap qui concerne des millions de Français demeure et va demeurer probablement encore dans l'ombre. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement. C'est toujours la même, c'est il faut faire le dos rond, il faut attendre, et ils espèrent qu'une nouvelle polémique va éclater sur un autre sujet pour desserrer les taux. Ça n'a que trop duré aujourd'hui.
C'est la pression médiatique. Ouais. Arnaud, en termes de communication.
Pour moi, cette affaire, elle est révélatrice de la façon dont le président de la République gère la relation entre morale et politique. Alors attention, je fais très attention. Hein. Pour moi, aujourd'hui, Damien Abad, en effet, il bénéficie même pas de la présomption d'innocence, parce que comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'enquête pour l'instant, donc en la matière. Mais en tout cas, il bénéficie d'une forme, j'allais dire, d'intégrité qu'on doit lui accorder au regard du droit. Mais il n'en demeure pas moins que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans avec Emmanuel Macron ? C'est que sur toutes les questions touchant à la morale politique, en règle générale, il y a eu une forme, j'allais dire, de distance qui a été prise par rapport finalement à des pratiques qui s'étaient certes difficilement, implantées dans le monde politique, mais qui faisaient que lorsqu'un ministre était soupçonné ou un politique était soupçonné, on faisait en sorte quand même, dans la plupart des cas, de prendre ses distances avec lui, ne serait-ce que le temps, je veux dire, que l'enquête se déroule. Je rappellerai quand même du temps de Nicolas Sarkozy, il y a un ministre qui a été, un secrétaire d'État qui a été démis de ses fonctions parce qu'il avait, je crois, acheté avec l'argent du cabinet une boîte de cigares. Il y a un autre secrétaire d'État qui a été, à l'époque, lui aussi démis de ses fonctions parce qu'il a pris un avion du GLAM, je crois, à l'époque, pour se rendre dans sa circonscription alors qu'il pouvait prendre un moyen de transport qui était un moyen de transport utilisé par tout un chacun. Donc on voit bien qu'il y a de ce côté-là une forme de recul. Et puis la meilleure preuve quand même, bon, on parle beaucoup de Damien Abad, mais enfin quand même, la France est aujourd'hui le seul pays européen où on a le garde des Sceaux qui est quand même mis en examen. Il y a quand même quelque part là un fait qui devrait nous interroger. Et bon, ben voilà, alors, l'affaire Abad, elle est traitée, j'allais dire, avec cet esprit qui caractérise aujourd'hui Emmanuel Macron.
Jean-Luc, Madame Yass.
Le mandat de Damien Abad, quoi qu'on en pense, est déjà terminé. Voilà, c'est malheureusement c'est clair. Voilà, il démarre très mal. Qu'on soit conscient ou pas de ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, le mandat est terminé. Il ne peut plus prendre la parole. C'est pas un des grands ministres du gouvernement. C'était quelqu'un qui avait été cherché pour casser un peu les Républicains, un peu plus si on peut dire. Voilà, mais Damien dans cette affaire subit tout cela. Mais lui était, moi je crois que beaucoup de gens étaient au courant, pas au courant de tout, parce que ça ne veut rien dire être au courant de tout, mais ils connaissaient le fait qu'il y avait quelques bruits qui circulaient sur Damien Abad. Voilà,
oui, c'est ce que je voulais dire au début. Ouais. Et puis, ne nous faisons quand même pas tous instrumentaliser par ce MeToo politique qui est en fait une émanation des insoumis et de certains ultra-féministes. Moi, je trouve que...
Qu'est-ce que vous racontez
mouvement...
Qu'est-ce que vous racontez?
Non, je raconte que je dis et je suis féministe.
Les insoumis étaient aux États-Unis.
Comme femme, mais voilà, il y a aussi Damien Abad, c'est aussi l'objet d'une instrumentalisation politique qui est menée par des copains et autres. Voilà, c'est tout.
Ces deux femmes qui disent avoir été victimes existent.
Non, je ne parle pas d'elles. Je parle de Sandrine Rousseau et de Madame Coffin, qui sont
Mais c'est pas elles qui ont inventé MeToo. Hein.
Sont les initiatrices de cet observatoire MeToo politique.
Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Thierry Stenner qui sera là, puisque c'est le jeudi de l'Ascension. Merci à vous et on se retrouve très vite. Très bonne journée sur Sud Radio.